France Inter.
Bonjour à tous. Pour la première fois de l'histoire, l'Iran attaque directement Israël sur son territoire, Téhéran. Et ses alliés dans la région ont lancé plus de 200 missiles et drones tueurs cette nuit contre leur ennemi juré. À suivre dans ce journal le récit de cette nuit de stupeur et de panique en Israël. Et au contraire, en Iran, notre correspondant sur place nous raconte l'explosion de joie dans les rues de Téhéran. Nous verrons également en quoi cette attaque sans précédent pourrait changer le visage de ce conflit. On en reparlera à 8h20 avec vos invités, Ali et Marion.
Michel Goya, historien militaire et ancien colonel des troupes de marine, et Bernard Guetta, eurodéputé Renew, membre de la commission des affaires étrangères au Parlement européen.
Vos questions, chers auditeurs, sur les enjeux de cette guerre au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter.
Israël saisi de terreur cette nuit après cette attaque iranienne sans précédent. La République islamique et ses alliés ont donc lancé plus de 200 drones et missiles contre l'État hébreu. Bonjour Ajra Mohammad.
Bonjour.
On remonte avec vous le fil des événements de cette nuit.
Oui, hier soir, les Israéliens ont compris très vite que tout allait se jouer dans la nuit. Le gouvernement avait multiplié les messages d'alerte, les consignes de sécurité. Certaines familles se sont donc réfugiées dans des abris anti-bombes. Et un peu après 23 heures, heure locale, allocution de Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne.
Iran has launched a direct attack.
L'Iran a lancé une attaque directe contre l'État d'Israël depuis son territoire. Ceci est une escalade grave et dangereuse. Les forces de défense d'Israël ainsi que nos alliés sont totalement mobilisés afin de défendre l'État d'Israël et le peuple d'Israël.
Plus de 200 drones et missiles envoyés en quelques heures. Le bruit d'explosion mêlé à ceux des sirènes retentissent dans tout le pays. Sur les réseaux sociaux, des vidéos impressionnantes. On voit le ciel noir déchiré par ces étincelles, ces points lumineux. Les images font le tour du monde et des médias internationaux.
We're following major breaking news over the skies of Israel. A wide-scale aerial assault is going on right now with waves.
Well, we're hearing quite a lot of activity now. You can obviously hear the sirens.
تمتلك إيران أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة.
L'inquiétude et l'inquiétude de Sabrina Bellassen, cette franco-israélienne installée à Tel Aviv, elle répond à nos confrères de France Info.
On n'a pas dormi toute la nuit. Je ne crois pas qu'il y ait une personne qui ait pu dormir cette nuit ici en Israël. On est tous très très fatigués non seulement par le fait qu'on n'a pas dormi, mais par cette attente. On est vraiment fatigués, lassés par cette situation.
Il est 9h03 ce matin à Tel Aviv. L'espace aérien vient de rouvrir, annonce Israël, alors que le bilan de cette nuit se limite à quelques blessés, la majorité des tirs ayant été interceptés.
Et loin de ces scènes d'angoisse et de terreur, vous les entendiez à l'instant, merci Ajra Mohammad. On va tout de suite en Iran. Bonjour Siavosh Ghazi.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Téhéran et vous avez assisté à des scènes de liesse en plein cœur de la capitale de la République islamique.
Eh bien, dans la nuit, il y a eu des scènes de liesse à Téhéran, mais aussi dans les villes de province. À Téhéran, on estime que l'attaque a été un succès. C'est la plus grande attaque de drones de l'histoire. C'est aussi la première fois qu'Israël est frappé ainsi depuis la guerre de 1967. De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des missiles iraniens au-dessus de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem ou encore au-dessus du Parlement israélien, la Knesset. Il y a également des vidéos où on voit des missiles iraniens frappés les unes après les autres des cibles en Israël. Téhéran a affirmé que les cibles visaient des cibles militaires, notamment une base à Negev, mais aussi une base dans le nord d'Israël, d'où étaient partis les avions qui avaient frappé le 1er avril dernier le consulat iranien à Damas. Dans la nuit, les gardiens de la révolution ont également publié un communiqué pour mettre en garde Israël, mais aussi les États-Unis. Le texte affirme que si jamais l'État hébreu décidait de réagir, la réaction de Téhéran sera encore plus dure. Il met également les États-Unis en garde. Si jamais Washington décide de s'engager aux côtés d'Israël pour attaquer l'Iran, tous les intérêts et les bases américaines dans la région, notamment en Irak et en Syrie, seront des cibles potentielles et légitimes.
Le président américain qui s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou cette nuit, Joe Biden a réaffirmé son soutien inébranlable à Israël. Il convoque également ses homologues du G7 aujourd'hui pour, je cite, « coordonner une réponse diplomatique unie à l'attaque éhontée de Téhéran ». Alors côté israélien, on minimise l'efficacité de cette attaque, elle aurait même été déjouée. 99% des missiles et des drones iraniens ont été interceptés, affirme l'État hébreu. On retrouve notre correspondant en Israël. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour François, bonjour à tous.
Et malgré la réaction d'Israël, il ne faut pas perdre de vue que cette attaque, c'est un véritable tournant dans ce conflit.
Oui, évidemment. Pour la première fois depuis l'attaque irakienne, c'était en 1991. Le sol israélien a été visé par un État souverain. Le premier enseignement, c'est qu'Israël et l'Iran s'affrontent désormais directement. Et c'est donc une nouvelle étape dans le conflit larvé qui oppose depuis près d'une vingtaine d'années l'État hébreu et des puissances mandatées par Téhéran, le Hezbollah au Liban, évidemment, les milices chiites en Irak et les houthistes au Yémen. Il va falloir maintenant guetter la réaction israélienne qui pourrait encore aggraver les tensions. Deuxième enseignement, des États arabes sunnites comme la Jordanie ont défendu Israël en abattant des drones et des missiles iraniens, et un axe israélo-américano-arabo-sunnite est peut-être en train de naître. L'attitude de l'Arabie Saoudite, alliée des États-Unis, est à surveiller. Enfin, à Gaza, c'est une victoire pour le Hamas et son leader Yahya Sinwar. Il espérait depuis 6 mois une offensive franche d'autres ennemis d'Israël comme le Hezbollah et une régionalisation du conflit. Avec l'attaque de cette nuit, la guerre prend évidemment une dimension internationale.
Merci Thibault Lefèvre. Et l'ONU convoque ce soir une réunion en urgence de son Conseil de sécurité. Pendant ce temps, les négociations sur le conflit dans la bande de Gaza ont échoué. Le Hamas a rejeté le dernier projet de trêve. C'est ce qu'annoncent les services de renseignements israéliens. Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar avaient soumis cette proposition au chef du mouvement islamiste la semaine dernière. Yahya Sinwar ne veut pas d'accord humanitaire ni le retour des otages, indique le Mossad. On reviendra sur ce conflit entre Israël et l'Iran. Après ce journal, avec vos invités Ali et Marion, vous recevez l'historien militaire et ancien colonel des troupes de marine Michel Goya et Bernard Guetta, eurodéputé Renew, membre de la commission des affaires étrangères au Parlement européen.
8h07, le Rassemblement national fait la course en tête, c'est ce qu'indique un sondage qui vient de paraître.
Oui, la liste menée par son président Jordan Bardella se place en tête des intentions de vote pour les élections européennes du 9 juin. C'est ce qui ressort du sondage Ipsos pour France Inter et Le Parisien que nous vous avons dévoilé hier soir. Le RN bénéficie d'une réelle dynamique avec 32% d'intention de vote, analyse le directeur délégué de la général de l'Institut Ipsos, Brice Teinturier.
On mesure vraiment que la pénétration du RN aujourd'hui est très forte, très puissante sociologiquement. Il est très élevé dans toutes les classes d'âge, y compris maintenant chez les plus de 60 ans. Et même chez les 70 ans et plus, il fait jeu égal avec la liste de Valérie Ayet. Il est également très présent dans ses bastions traditionnels. Les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires, mais il commence à opérer une percée aussi chez les cadres. Donc on voit que la dynamique est réelle, qu'elle fait tache d'huile, et l'écart avec la liste conduite par Valérie Ayet est très important aujourd'hui, puisqu'on a 32% dans un cas, 16% dans l'autre. Je rappelle qu'en 2019, il y avait un point d'écart à l'arrivée.
Et vous retrouvez le détail de ce sondage sur le site de France Inter. Il a été réalisé du 10 au 11 avril sur un échantillon représentatif de 1500 personnes inscrites sur les listes électorales et interrogées par Internet. Attention aux arnaques. Si vous commencez à préparer vos prochaines vacances à l'étranger, les fausses agences de voyage se multiplient sur les réseaux sociaux. Alors elles vous attirent avec leurs tarifs alléchants et souvent trop beaux pour être vrais. Philippe Lefèvre, vous êtes notre spécialiste tourisme et vous avez remonté la piste de l'une de ces arnaques.
Pour Carole, se rendre à New York tenait du voyage de rêve. Aussi, lorsque sur Facebook, ce qu'elle croyait être une agence de voyage lui proposa un tarif intéressant, elle n'hésita pas une seconde.
On a eu des réunions pour préparer le séjour. Et puis du jour au lendemain, plus de nouvelles. Bien évidemment, une fois qu'on avait tout payé. Alors nous, personnellement, on a perdu un tout petit peu plus que 3 000 euros. Par contre, on a des familles qui ont perdu plus de 13 000 euros hein, quand même.
Cette fausse agence de voyage, apparaissant sous plusieurs noms, comme Voyageons Ensemble ou Copain Copine, n'en est pas à son coup d'essai. Elle aurait aussi abandonné sur un parking du nord de la France des voyageurs attendant un car pour se rendre en Espagne. Et si ses clients lésés se sont regroupés pour tenter de retrouver probablement en vain leur argent, force est de reconnaître que l'arnaque à la fausse agence de voyage est assez courante. En Allemagne, par exemple, l'agence Tropical Beach vendait jusqu'à 100 fois le même billet d'avion. Alors, pour éviter ce genre d'escroquerie, avant de verser le moindre centime, il faut vérifier si l'agence en question a bien une existence légale, une immatriculation auprès des autorités françaises, un numéro commençant par IM, suivi du département où se trouve l'entreprise, puis d'une série de chiffres. Et enfin, il faut surtout fuir les agences qui n'existent que sur les réseaux sociaux, même si les tarifs qu'ils vous proposent vous paraissent très intéressant.
Et il y a un parfum de printemps et de vacances qui ne trompe pas, celui du muguet. Alors, y en aura-t-il cette année pour le 1er mai ? La cueillette se fait traditionnellement dans deux grosses semaines, le même jour que la fête du travail, sauf que les clochettes commencent déjà à pointer le bout de leur nez dans nos forêts, Lorraine notamment, comme à Lay-Saint-Christophe. On est au nord-est de Nancy. Monique Chevry est pépiniériste du jardin d'Adoué. Elle nous a cueilli un bouquet de ce muguet très précoce cette année.
Il est quasiment comme il devrait être en fait au 1er mai. Les boutons évidemment sont bien formés. La partie supérieure est encore toute fermée, bien verte. Et vous avez les petites corolles du bas qui commencent à blanchir. Et
ce qu'on appelle les clochettes, c'est ça ?
Les clochettes du muguet, hein, bien sûr, qui vont commencer à blanchir et à s'ouvrir et évidemment nous gratifier d'un parfum magnifique. Elles ont entre 15 jours et 3 semaines d'avance, oui, à peu près, comme presque toute la végétation. En plus de ça, non seulement ça a de l'avance et on n'a pas eu de gelée printanière, les fleurs n'ont pas gelé, ni les glycines, ni les lilas, enfin voilà, tout le monde est en pleine forme.
La description de ce joli bouquet, c'était au micro de Marie Roussel de France Bleu Sud-Lorraine.
Il y a maintenant 8h11, le journal des sports.
Et c'est avec Clara Lecoq-Réal aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour François, bonjour. Alors, à tous.
Une finale entre experts de terre battue à Monte Carlo aujourd'hui.
Oui, le Norvégien Casper Ruud, finaliste à Roland-Garros ces deux dernières années, va affronter cet après-midi le Grec Stefanos Tsitsipas, finaliste à Roland, lui, il y a 3 ans. Ruud et Tsitsipas ont éliminé hier les 2 meilleurs joueurs du monde, Novak Djokovic et Yannick Sinner. Casper Ruud visera un premier titre en Masters 1000 aujourd'hui, quand Tsitsipas, lui, va tenter d'étoffer son palmarès. Et il le mérite, Fabrice Abgral.
Souvent placé, rarement gagnant, sauf à Monte Carlo, où Stefanos Tsitsipas a remporté le trophée à 2 reprises coup sur coup en 2021 et 2022, 2 des 10 titres glanés depuis le début de sa carrière. En revanche, des finales, le Grec en a perdu beaucoup, 17 au total, dont 2 en Grand Chelem, battus à chaque fois par Novak Djokovic, l'année dernière à l'Open d'Australie, et à Roland-Garros en 2021. Mais peu importe, Stefanos Tsitsipas accepte les échecs à la seule condition d'avoir tout donné sur le court. Ce n'est pas sa seule qualité. Patrick Mouratoglou en connaît d'autres. Il l'a fait venir dans son académie alors que Stefanos n'avait que 16 ans.
Pour moi, sa principale qualité, c'est d'être un exceptionnel compétiteur. Ce qui, à mon sens, est la plus grande qualité des champions. C'est un truc qu'on apprend très difficilement parce qu'il y a des gens qui l'ont et des gens qui ne l'ont pas. C'est un joueur qui s'accroche tout le temps. Je l'ai vu perdre, mais je ne l'ai jamais vu lâcher. À sortir des coups improbables sur les points les plus importants. Et ça, ça s'apprend pas. Et donc, quand on sait faire ça, on apprend et on progresse 10 fois plus vite que les autres.
Stefanos Tsitsipas était solidement installé dans le top 10 mondial depuis mars 2019, avant d'en sortir il y a un mois. Grâce à son parcours à Monte Carlo, le Grec va y revenir, au pire à la 9e place, au mieux à la 7e, en cas de victoire.
Stefanos Tsitsipas face à Casper Ruud, la finale est à 15h à Monaco.
Du football également, Clara.
Avec l'affiche de la 29e journée de Ligue 1 ce soir, Lyon, 10e, mais en pleine remontée, reçoit Brest, solide 2e, qui peut rêver d'Europe. C'est à 20h45. Toutefois, en matière de football ce dimanche, c'est vers l'Allemagne qu'on doit se tourner, car à 5 jours de la fin du championnat, le Bayer Leverkusen pourrait, 6 victoires, être sacré champion d'Allemagne ce soir. Ce serait une première pour le club. Après une saison absolument exceptionnelle, ces stats sont rares, Jean-Pierre Blimeau.
Le Bayer Leverkusen n'a perdu aucun match, ni en championnat, ni en Coupe d'Allemagne, ni en Coupe d'Europe, avec un bilan impressionnant, 42 matchs disputés, 37 victoires et 5 nuls. Le Bayer peut également devenir le premier club allemand à boucler une saison entière sans défaite. L'équipe entraînée par le champion du monde espagnol, Xavi Alonso, a même battu 2 fois ses 2 premiers poursuivants en s'imposant à domicile face à Stuttgart et face au Bayern Munich, et notamment avec un cinglant 3-0 face au Bayern. Et justement, Leverkusen est aussi en passe de mettre un terme à l'hégémonie du Bayern, qui vient d'aligner 11 titres consécutifs de champion d'Allemagne. Régulièrement appelé Neverkusen, à cause de sa réputation de ne jamais rien gagner, le Bayern pourrait aussi abandonner ce surnom qui lui colle à la peau.
Leverkusen qui reçoit le Werder Bremen, c'est à 17h30.
Et on suivra aussi cet après-midi du rugby.
Oui, puisque les filles tricolores poursuivent leur tournoi des 6 nations en recevant l'Italie en début d'après-midi. Et puis chez les hommes, c'est un week-end de Coupe d'Europe avec Toulouse-Exeter à 16h. Dernière chance de passer en demi-finale. Hier, Bordeaux et La Rochelle ont été éliminés. Et puis, je vous en parlais hier, les basketteuses de Villeneuve-d'Ascq en finale de l'Euroleague, la plus prestigieuse des compétitions européennes. C'est à 18h aujourd'hui face au Fenerbahçe. C'est un gros morceau. Le club a gagné 53 de ses 55 matchs cette saison.
Merci Clara Lecoq-Réal.
Dans le journal de François Chagnot, il est 8h15 sur France Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur euromaster.fr.
Camille Esnault, dernier jour de grosse chaleur ce dimanche.
Oui, avec encore aujourd'hui jusqu'à 30 degrés attendus après le record mensuel de température battu hier, c'était à Aix-en-Provence. Du centre au nord-est, il fera 22 à 26 degrés cet après-midi, alors que sur le nord-ouest, ça baisse avec 15 à 21 degrés. Ce matin, c'est stationnaire, vous avez 8 à Lorient, 9 au Puy-en-Velay, 10 à Boulogne-sur-Mer, 11 à Paris, 12 à Marseille, 13 à Toulouse et 16 sur la Côte d'Azur.
Et dernier jour aussi sans la pluie.
Oui, puisqu'une nouvelle perturbation arrive par le nord-ouest, de nombreux nuages déjà présents ce matin entre Bretagne, Pays de la Loire et Hauts-de-France. Du brouillard aussi entre Aquitaine, Centre et Lorraine qui vont s'évacuer rapidement, sauf sur la côte aquitaine sous la grisaille aujourd'hui. Et cet après-midi, le soleil se montrera plus souvent sauf sur une petite moitié nord et les côtes de la Manche sur la partie sud. Il brillera sans discontinuer.
Merci Camille Esnault, c'était la météo 8h16 sur Inter Géopolitique.